Le journal Yves Decamps. Bonjour Yves.
Bonjour. Pas d'Américains à Paris cet été, ni Paris ni ailleurs en Europe. Les 27 ont dressé la liste des pays sûrs d'un point de vue sanitaire. Ni les États-Unis, ni la Russie, ni le Brésil n'en font partie. Une campagne de boycott des réseaux sociaux qui porte ses fruits après l'annonce par plus de 90 grandes marques mondiales qu'elles retiraient leur publicité, notamment à Facebook. Le réseau de Mark Zuckerberg promet un renforcement des contrôles contre tous les messages incitant au racisme ou à la haine. Dans ce journal également, une gay pride mondiale en mode virtuel sur Internet pendant 24 heures. Une campagne contre l'abandon des chiens et des chats à l'occasion des grands départs. On en parle avec notre invité, Jean-Charles Fonbonne, le président de la SPA, les dessins des plus grands noms de la BD, mis en vente aux enchères cet après-midi à Paris. Des températures à 30 degrés dans l'Est et le Sud, un peu moins chaud ailleurs, nuages et averses possibles quasiment partout, nous dira ensuite Jean-Michel Golinski.
France Inter.
Et d'abord, il devrait y avoir du monde sur les plages cet été après les inquiétudes liées au confinement, puis au déconfinement très progressif. Les professionnels du tourisme peuvent être rassurés, en tout cas pour les mois de juillet et août. Les locations saisonnières ont bien repris, les réservations se multiplient, même s'il reste encore des places. La tendance est plutôt à l'optimisme sur le court terme. Pour la suite, on verra. Illustration à La Baule, Anne Patinec.
À l'hôtel L'Amirauté, face à la gare de La Baule, le mois de juin, c'est plutôt bien passé avec une fréquentation correcte. Petit soulagement pour Annabelle Tribou et son fils Alexis qui ont beaucoup investi dans cet établissement ouvert en février et fermé quelques semaines plus tard à cause du confinement.
On a été obligé de se réendetter surtout, puisqu'on était éligible sur rien, mais même les prêts. De toute façon, en fait, ce n'est pas des aides, c'est des prêts. La banque, la BPI, il va falloir les rembourser. Hein. Si on ne fait pas une bonne saison, on n'est pas bien. Si là, on ne fait pas juin, juillet, août, septembre, des bons mois, il va y avoir de la casse.
Les hôteliers croisent les doigts pour que le soleil soit au rendez-vous cet été, car comme chaque année, la météo conditionne la saison. Ce qui les inquiète actuellement, c'est la disparition du tourisme d'affaires. Les congrès et colloques sont annulés, regrette Laurence Lepape de l'hôtel Mona Lisa.
Clientèle d'affaires, c'est zéro de toute façon pour l'instant, c'est clair, alors que d'habitude en juin on a une clientèle d'affaires en semaine. Donc nous on peut pas vivre à l'année qu'avec du tourisme, on a besoin de clientèle d'affaires sur toute l'année, qu'elle soit répartie sur toute l'année.
Et plusieurs événements sportifs qui drainent beaucoup de monde comme le jumping en mai et le triathlon en septembre ont été annulés.
Ce qui est sûr pour cet été, en tout cas les premières semaines, c'est qu'il ne faudra pas compter sur les touristes étrangers, les Européens peut-être. Pour les autres, les 27 se sont mis d'accord hier soir à Bruxelles sur une liste de pays sûrs dont les ressortissants pourront être accueillis dans l'Union dès mercredi 1er juillet. Une liste qui reste à officialiser, mais on n'y trouvera ni la Russie, ni le Brésil, ni surtout les États-Unis. Pierre Benazet, vous êtes à Bruxelles, on ne verra pas d'Américains en ce début d'été, ni à La Baule, ni ailleurs.
Non, effectivement, les États-Unis avaient pourtant tenté de faire pression sur l'Union européenne pour faire partie de la liste des pays dont les résidents seront autorisés à revenir en Europe à partir du 1er juillet, même si eux-mêmes n'ont toujours pas rouvert leurs frontières aux Européens. C'est une des raisons pour lesquelles la négociation entre les 27 a été longue, puisqu'ils voulaient absolument éviter toute accusation d'ostracisme ou de favoritisme. Un critère scientifique a été finalement choisi, le taux de prévalence du Covid-19. Pour être éligible, un pays doit avoir un taux de contamination égal ou inférieur à la moyenne européenne, à savoir 16 personnes infectées pour 100 000 habitants. Ceci exclut donc effectivement les États-Unis, comme d'ailleurs la majorité des pays du monde, puisque, en fin de compte, seuls 14 pays figurent sur la liste adoptée hier soir, de l'Uruguay à la Nouvelle-Zélande, de la Géorgie à la Thaïlande, en passant par l'Algérie, le Maroc ou la Tunisie.
Avec un pays qui reste en balance, Pierre, c'est la Chine à laquelle les Européens demandent une réciprocité.
Oui, réciprocité, c'est une autre condition imposée par les 27. Quand les résidents européens pourront retourner en Chine, les résidents chinois pourront revenir en Europe. En Europe élargie, soulignons-le, puisque cette réouverture graduelle et progressive s'applique aussi aux pays de l'espace Schengen, Suisse, Liechtenstein, Islande et Norvège. La liste sera adoptée formellement lundi, mais elle devra être révisée tous les 15 jours. Soulignons tout de même que c'est une recommandation quand les capitales pourront appliquer comme elles le désirent entre celles qui sont tiraillées par la crainte du retour du virus et celles qui veulent voir revenir les touristes.
Pierre Benazet à Bruxelles. Pour les étrangers déjà en France et qui voudraient s'y installer, le déconfinement leur impose maintenant d'aller vite pour régulariser leur situation. Obtention ou renouvellement des titres de séjour, tous les rendez-vous en préfecture avaient été annulés depuis la mi-mars. Les délais ont été remis en place cette semaine. Les ressortissants étrangers ont 2 mois pour effectuer leur démarche. Mission quasiment impossible, Julie Paco.
Cela fait 2 ans que Jessica, canadienne, est arrivée à Lyon grâce au programme vacances-travail, un visa qui expire dans quelques jours. Mais mariée récemment à une Française, elle devait bénéficier d'un nouveau titre de séjour et puis le confinement est passé par là.
J'avais rendez-vous le 24 juin à la préfecture pour mon renouvellement de titre de séjour. Et en fait, avec le Covid, ils ont annulé tous les rendez-vous. On n'a toujours pas eu de nouvelles.
Jessica, qui n'a pas pu bénéficier de l'allongement des titres de séjour mis en place pendant le confinement.
Pour les gens dont le visa expirait entre le 16 mars et le 15 juin, leur visa est prolongé de 6 mois. Du coup, comme moi, mon visa expire le 3 juillet, eh bien, je rentre pas dans ces dates-là. Donc, on ne sait trop. Je vais me retrouver finalement en situation irrégulière.
Et cette Québécoise de 26 ans est loin d'être la seule dans cette situation. Lise Faron est responsable des questions de droit au séjour à la CIMAD.
En fait, la prolongation des titres de séjour qui a été décidée, elle est très bien, mais elle est insuffisante. Ce qui se passe à partir d'aujourd'hui, c'est que, par exemple, si je dois renouveler un titre de séjour, parce que mon titre de séjour expire là ou a expiré la semaine dernière, j'ai un délai de 2 mois pour déposer ma demande. Le problème, c'est qu'en fait, les préfectures sont clairement pas en mesure de recevoir les personnes, en tout cas toutes les personnes.
Et si ce phénomène de blocage existait déjà avant le confinement, la crise sanitaire est venue l'accentuer.
France Inter, le journal de 13h, Yves Decamp.
Le début des vacances d'été, les grands départs, c'est aussi la période des abandons de chiens ou de chats attachés à un arbre, un poteau ou déposés aux portes des refuges. L'occasion de rappeler en cette journée mondiale contre l'abandon des animaux de compagnie qu'un animal n'est pas un jouet dont on se débarrasse. Bonjour Jean-Charles Fonbonne.
Bonjour.
Vous êtes le président de la SPA. On peut rappeler que malheureusement les Français sont champions dans cette triste pratique de l'abandon.
C'est ce que l'on dit. Reste à savoir quel est le chiffre exact des abandons. C'est évidemment, il y a un chiffre noir énorme. Pour ce qui nous concerne, pour l'SPA, nous avons recueilli l'an dernier 46 000 animaux et un tiers, c'est-à-dire 15 000 pendant les mois d'été.
On dit que ce sont 100 000 animaux qui sont abandonnés chaque année, dont 60 000 en été. Alors chaque année, vous et toutes les associations répètent la même chose et pourtant rien n'y fait, rien ne change.
Oh, quand même, si. C'est-à-dire que le nombre d'animaux domestiques augmente et le nombre des abandons augmente moins vite. En fait, je pense qu'il y a plusieurs actions. C'est-à-dire qu'il y a celle qui est la plus visible, que l'on voit maintenant, c'est-à-dire l'appel à la mauvaise conscience avec des affichages, avec le court-métrage, par exemple, que nous avons sur notre site. Il y a ensuite des actions juridiques qui doivent être menées dans le temps, c'est-à-dire l'interdiction de la vente des animaux, comme vous le disiez à l'instant, c'est-à-dire comme des objets sur Internet ou dans des animaleries. Et puis, et c'est à ça que nous croyons le plus, parce que c'est un travail dans la durée, c'est l'éducation des enfants. La SPA va dans les écoles parler des animaux aux enfants, de façon à ce que leur regard de cette génération qui vient soit un petit peu différent et plus bienveillant que le nôtre.
On parle parfois d'un permis d'adopter, enfin c'est ce que certains élus proposent, un permis qui serait retiré en cas de maltraitance, ce serait une bonne idée ?
C'est une bonne idée, mais c'est une idée qui, à mon sens, est assez difficile à mettre en œuvre. Celle d'une attestation qui serait remise au moment de l'adoption me paraît plus facile. C'est ce que nous faisons lorsque des personnes viennent adopter un animal dans un de nos refuges. On oriente leur choix vers un animal auquel ils vont pouvoir apporter des conditions de vie qui seront satisfaisantes. Mmh. À partir de ce moment-là, il y a une longue explication, il y a des mises en garde. C'est une attestation, en quelque sorte, qui leur est remis. Le permis, il faut le faire passer, il faut le contrôler, il faut des gens pour organiser les épreuves. Oui, mais c'est compliqué.
Alors, pendant le confinement, les procédures d'adoption avaient été assouplies. Est-ce que ça peut avoir des conséquences en termes d'abandon pour la suite ?
Alors, on craignait, on avait le choix entre laisser les animaux dans les fourrières où ils auraient été irrémédiablement euthanasiés ou effectivement faire cette adoption simplifiée pendant cette période avec le risque que les gens prennent un animal simplement pour aller se promener. Depuis le 11 mai, depuis la fin du confinement, nous avons enregistré très exactement hier soir 4210 abandons. Nous n'en avons aucun de ceux que nous avons confiés à l'adoption pendant le confinement. Tous nos animaux sont identifiés, hein, vous l'imaginez bien, donc on les aurait vus revenir. Il n'y en a aucun, donc c'est déjà une énorme satisfaction parce qu'on a réalisé plus de 1000 adoptions pendant ce confinement grâce à la dérogation du ministre de l'Intérieur. Et la bonne nouvelle, c'est que le 1er juillet, donc en début de semaine, nous réouvrons nos refuges avec un processus de visite normal, c'est-à-dire que vous n'êtes plus obligé de prendre un rendez-vous pour venir voir un animal. Vous pouvez venir avec votre famille, vous promener dans nos refuges et pas forcément partir avec un animal, mais au moins venir les voir.
On rappelle donc le court-métrage sur le site de la SPA, court-métrage intitulé Le Survivant, film qui a pour objectif de révéler la dure réalité des conséquences de cet acte cruel. On y voit le chemin semé d'embûches, parcouru par un chien abandonné. Merci beaucoup Jean-Charles Fonbonne, président de la SPA. Merci beaucoup. À l'étranger, en Pologne, les dernières heures de campagne et les derniers meetings hier à Varsovie pour une présidentielle qui pouvait paraître joué d'avance avant qu'elle ne soit reportée, à demain. Mais cette fois, l'actuel président conservateur Andrzej Duda, qui a perdu du terrain dans les sondages, n'est plus sûr de rien. Son adversaire libéral, l'actuel maire de Varsovie, pourrait créer la surprise. Reportage dans la capitale polonaise, Ludovic Piétenu.
Son nom, Rafał Czarkowski. Il est le visage qui redonne de l'espoir à l'opposition. C'est lui qui a repris le flambeau après le report de dernière minute de ce scrutin qui devait avoir lieu le 10 mai, en pleine pandémie. En seulement quelques semaines, sa popularité a explosé. C'est sur la grande place devant les remparts rouges de la vieille ville qu'il a choisi de délivrer son dernier discours de campagne. Dans cette foule plutôt jeune, il y a Yola qui scande le prénom du candidat.
Il a un espoir pour vous ?
Oui, un très grand espoir. C'est comme Kennedy, Macron, ouais un peu, parce qu'il est libéral. Je veux que mes enfants soient européens.
Qu'est-ce qu'ils disent là ?
On a assez.
Assez d'Andrzej Duda, le président sortant, qui dit tout haut qu'il n'aime pas l'Europe, mais qui aime bien, selon ses détracteurs, les subventions européennes.
Avec Duda, c'est 5 ans de plus. J'ai pas le temps, moi. Mes enfants n'ont pas le temps.
Les Polonais sont imprévisibles, dit Yola. Cette campagne électorale est clairement la plus disputée de ces dernières années. Le second tour, le 12 juillet, paraît inévitable et totalement incertain. Varsovie, Ludovic Piétenu, France Inter.
Quand Coca-Cola retire ses billes des réseaux sociaux comme Unilever, hier la marque de boisson la plus connue au monde annonce qu'elle suspend pendant au moins 30 jours toute publicité sur Facebook, Twitter ou Instagram pour les appeler à plus de transparence et de responsabilité. Il n'y a pas de place pour le racisme sur le net, a sobrement expliqué le PDG du géant mondial, qui rejoint donc la campagne de boycott engagée déjà par de nombreuses marques et avec succès, puisque Facebook a dû annoncer un renforcement de sa politique de modération contre les publicités incitant à la haine et globalement contre tous les messages problématiques, Thibault Lefebvre.
Honda, Ben & Jerry's, Verizon, North Face et désormais le géant de l'agroalimentaire Unilever. Tous ces annonceurs qui dépensent depuis des années des dizaines de millions d'euros de publicité sur Facebook suspendent les uns après les autres leurs investissements. Le mouvement a été lancé par un regroupement d'associations de défense des droits civiques rassemblées derrière la bannière Stop Hate for Profit, arrêtez la haine au nom du profit. Et un de ses ambassadeurs, l'acteur britannique Sacha Baron Cohen, extrait d'une de ses prises de parole publiques, c'était en novembre dernier à New York.
Toute cette haine et cette violence sont encouragées par une poignée d'entreprises du web. Elles constituent la plus grande machine de propagande de l'histoire. Facebook, commencez à vérifier les faits avant de diffuser des publicités politiques. Rendez l'argent et arrêtez de les publier.
Mark Zuckerberg a donc cédé pour pouvoir justement ne pas perdre trop d'argent. Toutes les annonces discriminantes seront donc immédiatement dépubliées. Et deuxième mesure, comme Twitter ou YouTube, Facebook diffusera des messages d'avertissement en préambule de publications problématiques à moins de 5 mois de la présidentielle américaine. Ce sont notamment certains certains messages de Donald Trump qui seront désormais modérés sur Facebook.
Thibault Lefèvre, la modération selon Facebook, dossier à consulter sur franceinter.fr. Les marques qui rivalisent d'initiatives. Ce matin, c'est le groupe L'Oréal qui annonce le retrait de certains mots dans la description de ses produits cosmétiques sur ses emballages. Retrait notamment des mots blanc, blanchissant et clair qui seront donc retirés de tous les produits destinés à uniformiser la peau. C'est la fête en direct sur Internet pendant 24 heures. La Global Pride a pris le relais cette année de la traditionnelle Gay Pride et de ses défilés festifs, partout annulés pour raisons sanitaires. À Paris, ce sera le 7 novembre. En attendant, la marche des fiertés se fait donc de façon virtuelle. Depuis ce matin, sur le net, séquence DJ et table ronde par ce rassemblement virtuel qui devrait être très largement suivi dans le monde entier. La communauté LGBT espère maintenir le lien et permettre à certains de ses membres de prendre part peut-être à leur première Gay Pride. Comme l'a dit à Sébastien Sabiron, la coordinatrice de Pride Bordeaux, Erika Werner.
On verra des performances artistiques, des discours militants, des interventions de personnalités connues et de dirigeants. Il y aura toute une variété, comme on pourrait voir dans un événement autour d'une marche fierté. Pour la première fois, on a un événement mondial qui est accessible de partout, des quatre coins du monde. Les organisations qui sont souvent dans des endroits ou des lieux reculés de certains pays, pas très connus, pourront être visibilisées à travers cet événement. Mais aussi, c'est de toucher un public qui, d'ordinaire, qui craint pour sa sécurité personnelle, ne se serait jamais rendu sur un événement en présentiel et qui aujourd'hui peut se permettre de se connecter en toute discrétion et partager ce moment avec le reste du monde.
Et oui, l'homosexualité reste illégale et punie par la loi, rappelons-le, dans encore plusieurs dizaines de pays. Pour les amateurs de BD, c'est l'une des plus belles ventes aux enchères de dessins de BD qui se tient tout à l'heure à Paris. Plus de 200 lots, estimés de 200 à 350 000 euros, couvrant plusieurs décennies de dessinateurs mythiques, Hergé, Gottlieb, Uderzo, Mazière, Moebius, Bilal et autres, avec aussi deux pièces exceptionnelles de Franquin. Éric Leroy est l'un des experts d'Arcurial. Il est au téléphone de Jacqueline Pétros.
Cette vente propose deux chefs-d'œuvre absolus de Franquin. On a la couverture de recueil de Spirou, représentant Spirou, Fantasio, Spip et le Marsupilami dans la pirogue. C'est une pièce de musée exceptionnelle qui est estimée 350 000 euros. Et nous avons aussi une planche à 70 000 euros d'idées noires. Donc ça, c'est le fameux album, vous savez, où Franquin est un peu dépressif, décrivait un peu la société d'une manière assez noire. Et les planches sont vraiment rarissimes. L'ancrage est absolument sublime et tout le talent du dessinateur Franquin ressort à travers cette planche. Il y en a pour tous les prix. Vous pouvez acheter une planche pour 200 euros et puis pour 300 000. Donc c'est aussi important de rester dans cet esprit d'art populaire, de rester proche de tous les collectionneurs, de tous les passionnés.
Voilà les plus grands noms du 9e art en vente chez Arcurial. Début des enchères à 14h30. Allez, c'eût été en temps normal à la une de l'actualité sportive et peut-être de l'actualité tout court. Le Tour de France aurait dû s'élancer ce 27 juin de Nice, d'où il prendra le départ dans deux mois, le 29 août, pour une arrivée sur les Champs-Élysées le 20 septembre. Mais il ne sera pas dit pour les organisateurs qu'on n'en parle pas dès aujourd'hui, raison pour laquelle l'équipe de direction du Tour a pris la route à la rencontre des collectivités, des entreprises et des associations qui ont soutenu la grande boucle et permis d'éviter son annulation. L'occasion également de lancer une grande opération de solidarité pour les enfants défavorisés. Christian Prudhomme, le directeur du Tour, au micro de Vincent Rodriguez.
Nous allons lancer le Tour de France solidaire avec le Secours Populaire, les Journées du Bonheur à vélo. Il y a des gamins du Secours Populaire qui viennent tous les ans, des gamins défavorisés sur les étapes du Tour. Ben là, il y aura un certain nombre de rendez-vous, une vingtaine de rendez-vous avec des vélos qui seront donnés aux 400 gamins, 400 vélos donnés à ces gamins-là. Et puis, il y aura aussi une opération de collecte sur les étapes du Tour de France, du 29 août au 20 septembre. Mais nous travaillons avec les collectivités pour qu'il y en ait d'autres d'ici là, avec Emmaüs, pour proposer aux gens de donner leurs vélos qui seront retapés, on espère en récupérer un maximum, pour que ceux qui n'ont pas les moyens de se déplacer, pas les moyens d'acheter un vélo, puissent le faire. En fait, nous défendons la bicyclette sous toutes ses formes, évidemment le vélo des champions, mais aussi la bicyclette du quotidien, parce qu'elle est source de bonne santé, parce qu'elle est source de liberté, de découverte, et qu'elle est très utile, et qu'on souhaite que le Tour de France, lui aussi, soit utile.
Oui, tellement utile le vélo que le forfait de 50 euros versé par le gouvernement pour faire réparer sa bicyclette depuis le déconfinement dépasse tous les pronostics. Plus de 200 000 personnes en ont déjà bénéficié. 1 million de vélos devraient avoir été réparés d'ici la fin de l'année. Le temps.
La météo avec les cafés Malongo, grand cru biologique et équitable. Créateur de machines expresso à dose, fabriquées en France, à retrouver sur malongo.com.
Jean-Michel Golinski.
Aujourd'hui, les températures voisines de 30 degrés vont se réfugier sur la façade est et dans la moitié sud, mais entre la Manche, le centre Val-de-Loire et du nord au bassin parisien, c'est maintenant de l'air plus frais qui s'installe avec cet après-midi au bas mot 5 à 7 degrés de moins qu'hier. Malgré un ciel globalement nuageux, le soleil va tirer son épingle du jeu de part et d'autre de la vallée du Rhône et sur la Corse. Ailleurs, l'après-midi sera souvent rythmé par les averses des Pyrénées au Massif central, dans le Grand Est et sur les Alpes, avec possibilité de départ d'orages, notamment sur les massifs. Du nord de la Loire à la Belgique, les nuages vont s'entrecouper d'intermèdes pluvieux et le vent d'ouest sera sensible sur les côtes. Demain, le bassin méditerranéen va conserver du ciel bleu et des températures de 30 degrés. Sur les autres régions, régime de temps beaucoup plus variable, parfois menaçant, dans des températures de 20 à 24 degrés en général.